Voilà, donc nous étions arrêtés la fois dernière à Marc chapitre 15, où bien Jésus a été crucifié après un procès de pacotille. Et que va-t-il se passer après? Alors, on va prendre dans l'évangile de Marc chapitre 16. C'est donc la fin de l'évangile de Marc. Qui nous laisse avec plein d'espoir. Après la plus grande tristesse va survenir la plus grande joie. Marc chapitre 16, donc, je vais lire, avant ça je vais prier. Seigneur, nous voulons encore nous rappeler ce que tu as fait pour nous, nous rappeler ce temps. Tu es venu Seigneur dans l'histoire des hommes, et pour une mission bien précise, celle de donner ta vie pour nous. Et merci Seigneur, parce que oui, après cette grande tristesse de ta mort sur la croix, certains étaient sans espoir, eh bien tu as donné le plus grand espoir qui soit de par ta résurrection. Je te remets Seigneur, ces instants, que tu les conduises, que tu sois vraiment au centre de nos pensées. Je laisse à tes pieds tout ce qui peut occuper nos pensées inutilement, Seigneur, pour être pleinement à l'écoute de ta parole et pour que la laisser agir en nous, Seigneur. Merci, je me repose sur toi pour ce message. Et Seigneur, nous voulons être vraiment porteurs de cette bonne nouvelle, Seigneur, de ton salut en Jésus-Christ. Et pour cela, Seigneur, nous voulons nous laisser pénétrer de ta parole. Et merci, parce que c'est toi qui le fais. Au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai intitulé mon message « Le test de la foi ». Donc voilà, Marc chapitre 16, tout le chapitre 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates, afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt, au lever du soleil. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth le crucifié. » Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et hors d'elles-mêmes. Mais elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui menaient deuil et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, il se montrait sous une autre forme. Il se montra sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin et se rendaient à la campagne. Ils revinrent eux aussi l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. » Jusqu'ici, parole de Dieu. Il est beaucoup question de foi dans ce passage, si on souligne les mots qui reviennent souvent. Il était beaucoup question de croire, de foi, de croire. Et aussi de témoignage, de témoignage, de dire ce qu'on a vu. Et donc la vérité qui m'est apparue dans ce passage, c'est que la foi et le témoignage précèdent la mission. La foi et le témoignage précèdent la mission. Et c'est ce que je voudrais voir en deux points, ce que je veux voir en deux points. Le premier point, c'est que la foi doit précéder le témoignage. La foi doit précéder le témoignage. Témoignage de ce qu'on a vu ou de ce qu'on a entendu. Deuxièmement, nous verrons que le témoignage doit précéder la mission. Donc la foi et le témoignage précèdent la mission. Je vais développer ça. Jésus est donc ressuscité. Et avant de ressusciter, Jésus avait beaucoup informé ses disciples, au moins 5 fois dans l'évangile de Marc, qu'il ressusciterait. C'était en Marc 8, 31, après que Pierre ait reconnu en Jésus le Messie, Jésus leur a dit qu'il ressuscitera. En Marc 9, chapitre 9, Jésus était apparu transfiguré à Pierre, Jacques et Jean. Et il leur a annoncé ensuite qu'il ressusciterait. Marc 9, verset 31, les disciples venaient juste de poser la question à Jésus, qui sera le plus grand? Juste après, il leur a annoncé qu'il ressuscitera. Et en 10, verset 34, on est donc là où, avant son entrée à Jérusalem, juste avant son entrée en Jérusalem et après sa passion. Donc. Et enfin, en Marc 14, verset 28, donc après le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Donc au moins 5 fois où Jésus leur a annoncé qu'il ressusciterait. Est-ce qu'ils avaient retenu cette parole au moment où Jésus est ressuscité? Clairement non. Ce passage nous le montre en voir leur incrédulité. Donc il est beaucoup question de foi et d'incrédulité dans ce passage. Alors, Jésus est ressuscité, aucun être humain n'était là au moment où Jésus est ressuscité. Aucun être humain ne put témoigner comment Jésus est ressuscité. Mais Jésus est ressuscité. Et il s'est montré vivant à ses disciples, ce que nous allons voir. Donc la résurrection, c'est donc avant tout une affaire de foi. C'est donc avant tout une affaire de foi et de foi personnelle. Mon premier point, la foi doit donc précéder le témoignage. Le témoignage de ce que nous avons vu et entendu. Alors vous avez remarqué comment Jésus procède. Il ne s'est pas montré immédiatement à ses disciples. Mais il a laissé des indices de sa résurrection. Et clairement, c'était pour tester leur foi. Premier indice de sa résurrection, il s'agit du tombeau qui était vide, le tombeau où avait été mis Jésus. Au matin de la résurrection, donc, de Jésus, 3 femmes se hâtent vers le tombeau. Ce sont celles qui avaient servi Jésus, celles qui l'avaient suivi, et les courageuses qui avaient observé la scène quand Jésus avait été crucifié. Les disciples s'étaient enfuis. Pas elles. Elles étaient restées jusqu'à voir où est-ce qu'on mettait le corps de Jésus, jusqu'à dans quel tombeau. Elles avaient assisté à la crucifixion, avec douleur, et elles avaient regardé où on avait mis le corps. Ces femmes, donc, elles sont citées à la fin de l'évangile de Marc, Marc, à la fin du chapitre 15, elles sont aussi citées ici. Il s'agit de Marie-Madeleine, Marie, la mère de Jacques et de Salomé, et de la mère de Jacques et Salomé. Alors ces femmes, on voit bien l'amour qu'elles avaient pour le Seigneur. Jésus est mort et pourtant, très tôt le matin, elles se sont levées. Elles ont acheté des aromates pour aller embaumer le corps de Jésus. Et elles voulaient rendre un dernier service à leur Seigneur qu'elles croyaient encore mort. Elles ont eu du courage. Elles ont bravé les gardes pour aller jusqu'au tombeau. Alors que les autres disciples n'étaient pas là. Ils étaient reclus entre eux. Ils étaient tristes. Ils étaient cachés. Alors elles vont au tombeau. Et là, eh bien, elles s'attendaient à une difficulté de taille. La pierre qui fermait le tombeau. La grosse pierre qui avait fermé le tombeau. Une pierre énorme, parce que ni les femmes, ni une garde romaine de 16 hommes n'auraient pu rouler la pierre. Il s'agissait d'une pierre énorme. Mais quelqu'un a dit, je ne sais pas qui, mais voici ce qu'il a dit, l'amour balaie tous les obstacles sur le chemin de celui que l'on aime. L'amour balaie tous les obstacles sur le chemin de celui que l'on aime. Celui ou celle. Donc elles savaient, ces femmes, que ça n'irait pas sans difficulté. Il fallait d'abord rouler la pierre. Mais, aux surprises, l'obstacle était levé. Elles n'auraient pas à se soucier de rouler la pierre. L'obstacle était levé lorsque, nous dit le texte, elles levèrent les yeux. Il y a une application pour nous. Parfois, on a les yeux assez terre à terre et on oublie de lever les yeux. On a la bonne volonté de servir le Seigneur. Et puis on raisonne et on s'arrête aux obstacles qu'on pourrait rencontrer. Mais ce texte-là, qu'est-ce qu'il nous montre? Eh bien, lorsque nous sommes vraiment décidés à honorer le Seigneur et que nous appréhendons les difficultés qui peuvent se présenter, Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça ne va pas trop me fatiguer? Est-ce qu'il va y avoir de l'opposition? Eh bien, ce texte est là pour nous rassurer. Les principaux obstacles, lorsque nous voulons servir le Seigneur peut les enlever. Et le principal, là, c'était la pierre. La pierre avait été roulée. Elles n'ont rien eu à faire, les femmes. La pierre était roulée. Donc, premier indice, le tombeau était vide. Deuxième indice de la résurrection de Jésus, elles entrent dans le sépulcre, et là, qu'est-ce qu'elles voient? Elles voient avec épouvante un ange. Un ange qui avait l'apparence d'un jeune homme vêtu de blanc. Et je ne sais pas si vous avez vu déjà des anges, moi jamais. En tout cas, là, il est clair que cet ange les a épouvantés. Il les a épouvantés, elles avaient besoin d'être rassurées. Et comment les rassure-t-elle? Comment il les rassure, ces femmes? Eh bien, il leur annonce que Jésus est ressuscité. La place où on avait déposé le corps était vide. Le tombeau est vide. Et il y a une autre application pour nous, déjà. Jésus a porté nos péchés à la croix, tous nos péchés. Et il a emmené nos péchés avec lui. Où ça? Dans le tombeau. Dans le tombeau. Est-ce que vous avez encore des tombeaux de votre ancienne vie qui ne sont pas vides? Des tombeaux, des péchés de votre vie passée que vous croyez éliminés mais qui refont surface. Mais si nous croyons que Jésus a porté nos péchés, pourquoi les reprendre? Jésus les a emportés avec lui dans le tombeau et le tombeau est vide. Le tombeau où a été mis Jésus, qui a porté nos péchés, est vide. Il a porté nos péchés. Ce n'est pas pour que nous les reprenions. L'ange confia aux femmes une mission, celle d'aller proclamer la résurrection. Elle devait dire aux disciples et à l'apôtre Pierre que Jésus les attendait en Galilée. Ah, l'apôtre Pierre! Mais on se rappelle que Pierre, il a renié 3 fois le Seigneur et il n'avait pas encore vu Jésus. Imaginons dans quel état il se trouvait. On l'a vu hier avec les enfants. Il a certainement regretté de ne pas avoir eu le temps de demander pardon à Jésus pour son reniement, parce qu'il aimait le Seigneur. Est-ce qu'il savait seulement ce qu'il attendait? Le Seigneur, en tout cas, lui, ne l'avait pas oublié. Il n'avait pas rejeté Pierre, qu'il avait pourtant renié 3 fois. Le Seigneur aimait toujours Jésus et avait en vue de le restaurer. Le Seigneur Jésus aimait toujours Pierre et il avait en vue de le restaurer. Et peut-être, si parmi ceux qui écoutent, eh bien, si vous vous sentez comme une brebis égarée, une brebis qui est revenue en arrière dans son ancienne vie, désabusée d'elle-même, vous êtes retombé dans vos anciennes habitudes et vous n'osez pas revenir au Seigneur, eh bien, ce récit nous montre que lui vous cherche et il veut vous restaurer. Il veut vous restaurer comme il a voulu restaurer l'apôtre Pierre. Il veut que vous retrouviez la communion avec lui. Revenez à lui. C'est facile de renier le Seigneur quand on fait ce que nous savons être mauvais. C'est une façon de le renier. Ou quand on se laisse entraîner sous la pression des autres, une pression de groupe, et on n'ose pas dire non. C'est aussi une façon de renier le Seigneur. Mais le Seigneur veut nous pardonner si nous lui confessons nos péchés. Alors les femmes ont vu un ange, et là, elles ont été épouvantées, et qu'est-ce qu'elles font? Elles s'enfuirent du tombeau, épouvantées, perplexes. Et elles avaient trop peur, elles étaient dans l'effroi, nous dit le texte, elles avaient trop peur pour raconter à qui que ce soit ce qui leur était arrivé. Elles qui, jusqu'à là, avaient montré tellement de courage. Elles sont épouvantées par cet ange. Comme quoi, le surnaturel, on ne voit pas des anges tous les jours, hein, et... Comme quoi voir le surnaturel ne fait pas forcément de nous des témoins de Jésus. Ce n'est pas le spectaculaire qui va faire de nous des témoins de Jésus. Et le spectaculaire peut même faire peur. L'ange avait fait peur à ces femmes. Alors Jésus a choisi de procéder comme cela. Il ne s'est pas tout de suite fait voir à ses disciples. Mais d'abord, il a envoyé son ange pour se montrer. C'est un ange qui s'est montré à ces femmes. Mais Jésus ne s'était pas encore montré à ces femmes. Et on peut se poser la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus procède comme ça par étapes? Je crois que ces femmes n'étaient pas encore prêtes à témoigner. Elles étaient dans l'épouvante, elles étaient dans la peur. Et quand on a peur, on n'est pas à l'aise de témoigner. Pourquoi? Parce que, eh bien, avant de vouloir parler de Jésus à quelqu'un, il faut d'abord avoir la foi. La foi doit précéder le témoignage. C'est la foi qui va nous rassurer, qui va nous donner envie de témoigner. Et je vais y revenir. La foi, mais croire à qui? Là, très clairement, il faut croire aux paroles de l'ange, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Croire un ange, ça n'a pas suffi. Ni voir le tombeau vide, ça n'a pas suffi. Ces femmes, elles étaient épouvantées et nous dit, le texte nous dit qu'elles sont, elles n'ont rien dit. Il fallait quelque chose de plus pour que ces femmes parlent. Il fallait que les premiers disciples, je dis bien les premiers disciples, femmes et hommes, dont les apôtres, il fallait que les premiers disciples qui avaient connu Jésus en chair le voient lui-même, Jésus, ressuscité dans son nouveau corps. Il fallait qu'ils le voient avant d'aller, avant de témoigner. Et pour le moment, elles ne l'ont pas encore vu. Personne ne l'a encore vu. Alors les femmes, on peut reconnaître leur ténacité. Hein, pour avoir être restées présentes pendant la crucifixion et leur courage. Elles ont été les premières à aller au tombeau. Elles se sont levées très tôt, elles ont jeté des aromates. Eh bien, je crois que le Seigneur a honoré leur foi. Parce que ce sera encore une femme, Marie-Madeleine, qui sera la première témoin de Jésus. Ce sera la première qui verra Jésus ressuscité. Marie-Madeleine, on se rappelle, c'est Jésus l'avait délivrée de 7 démons. Et elle était devenue son disciple. Elle l'avait suivie, elle l'avait assistée de ses biens. Elle aimait beaucoup le Seigneur. Ce sera elle qui verra la première personne qui verra le Seigneur ressuscité. Et là, quand elle a vu le Seigneur, il n'est pas dit qu'elle a été épouvantée. C'est l'ange qui l'a épouvantée. Mais quand elle a vu Jésus, il ne s'agit pas d'épouvante. Elle aimait le Seigneur. Et la Bible nous dit en 1 Jean 4, verset 18, que, je le lis, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » L'amour parfait chasse la crainte. Marie-Madeleine aimait le Seigneur Jésus, et son amour, pour lui, a chassé sa crainte. Autant elle a eu peur de l'ange, autant de retrouver son Seigneur, elle n'était plus elle a retrouvé celui, son Seigneur qu'elle aimait tant. Et non seulement l'amour parfait chasse la crainte, mais aussi l'amour parfait nous ouvre la bouche. Autant les femmes avaient peur, elles n'ont dit à personne ce que leur ont dit l'ange, parce qu'elles avaient peur, elles étaient épouvantées, autant là, Marie-Madeleine a été voir les autres apôtres, les autres disciples, les apôtres, pardon, pour leur dire que Jésus était ressuscité. Elle a parlé, elle n'avait plus peur, parce qu'elle aimait le Seigneur. L'amour, non seulement chasse la crainte, mais il nous ouvre la bouche et il nous donne envie de témoigner. Alors Marie-Madeleine avait retourné en ville pour partager avec les disciples la nouvelle extraordinaire qu'elle avait vu le Seigneur ressuscité. Et pendant ce temps, les disciples, non, c'est pas possible. Pour eux, c'était trop beau pour être vrai. Ils ne l'ont pas cru, nous dit le texte. En fait, ils préféraient rester plongés dans la tristesse et dans la désolation, enfermés entre eux. Mais tout de même, Marie-Madeleine avait vu le Seigneur. Ils n'ont pas cru quelqu'un qui a vu le Seigneur. Alors, le test de la foi a échoué. Non seulement le témoignage d'un ange n'a pas suffi, mais aussi le témoignage d'une femme n'a pas suffi. Il fallait que Jésus se montre à encore plus de témoins, et bien sûr ses apôtres. Alors, Jésus va se montrer à deux autres de ses disciples, sous une autre forme, nous précise Marc, pour faire un bout de chemin avec eux, comme compagnons de voyage. Il s'agit des deux disciples d'Emmaüs, on peut retrouver le récit en détail en Luc chapitre 24, les versets 13 à 31. Et donc, ces deux disciples, ils partaient de Jérusalem, et quand ils ont vu Jésus, que Jésus s'est montré à eux, ils sont retournés à Jérusalem pour aller dire aux apôtres qu'ils ont vu le Seigneur ressuscité, le Sauveur. Et là, même incrédulité que pour Marie, ils ne la crurent pas. La parole de Dieu nous dit que le témoignage de deux hommes suffit pour avérer un fait. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 17, qui reprend aussi la loi de Moïse. Je lis Jean 8, 17. « Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. » Les apôtres connaissaient, les disciples connaissaient la loi en tant qu'israélites. Or là, deux hommes ont témoigné. Déjà la femme, Marie-Madeleine avait témoigné. Mais là, deux hommes, ensemble, ont vu le Seigneur. Et ils n'ont pas cru. Nouvel échec dans le test de la foi. Les apôtres qui ont connu Jésus en chair, avant sa mort et sa résurrection, on peut dire qu'ils aggravent leur cas. Ils n'avaient pas d'excuses. Ils avaient le cœur endurci, nous dit le texte. En fait, ils préféraient rester dans leur tristesse, dans leur incrédulité. Alors oui, l'incrédulité, parfois, la cause de l'incrédulité, ça peut être la peur d'être déçu. Non, c'est trop beau pour être vrai. C'est peut-être ça. Mais ils n'avaient pas d'excuses. Ils avaient le cœur endurci. Est-ce que c'est une raison pour vouloir rester dans la tristesse ? Avec le Seigneur, il n'y a pas de fausse joie. Il ne nous déçoit pas. Le Seigneur s'était montré à Marie-Madeleine, il s'est montré à ses deux disciples. Et là, ça n'a pas suffi, alors il fallait. Il fallait aussi, dans son plan, dans le plan du Seigneur, il fallait que Jésus se montre ressuscité aux autres apôtres qui ne l'ont pas vu. Il le fallait, il fallait qu'il le voie. Il avait connu avant sa mort, sa résurrection, il fallait qu'il le voie en chair, nouveau corps, ressuscité. Et c'est ce qui est arrivé. Jésus s'est présenté aux 11 apôtres, et là Jésus, il leur a fait le reproche de n'avoir pas cru à la réalité de sa résurrection, annoncée par des témoins oculaires qui l'ont vu, Marie-Madeleine, les deux disciples. Et c'est un reproche. Ils n'ont pas cru à ceux qui l'ont vu. Il n'y avait pas d'excuse. Ils avaient le choix de les croire ou de ne pas les croire. C'était leur choix, leur responsabilité personnelle, comme c'est notre responsabilité personnelle de croire ou de ne pas croire. Ce que dit tout, ce que dit la Bible. Les apôtres, plus que les autres, ils avaient toutes les raisons de croire aux témoins oculaires, à Marie-Madeleine et aux deux disciples, parce qu'ils avaient connu Jésus en chair. Et Jésus leur avait annoncé qu'il ressusciterait. Mais ce n'est pas qu'ils n'ont pas pu croire. Une fois, j'ai entendu quelqu'un dire « Alors, tu sais, j'aimerais bien croire, mais je ne peux pas. » Ce n'est pas qu'ils n'ont pas pu croire, c'est qu'ils n'ont pas voulu croire. Ils n'ont pas voulu croire. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas pu croire, sinon Jésus ne leur aurait pas fait ce reproche. Et il s'agit d'un véritable reproche. Pour nous, aujourd'hui, 13 avril 2025, eh bien, il s'agit aussi de croire, pas seulement pour nous. Si nous sommes là, c'est que je crois, nous croyons. Beaucoup ne croient pas. Et pour nous, il s'agit aussi de croire. De croire quoi? De croire qui? De croire à ceux qui ont vu le Seigneur. Ceux qui ont vu le Seigneur, ce sont les apôtres. Et leur récit nous est consigné dans la parole de Dieu. Alors, eh bien, pour nous aussi, il s'agit de croire ceux qui ont vu le Seigneur. Ne faisons pas comme les apôtres, croyons. Aujourd'hui, les apôtres sont morts, mais leur témoignage est consigné dans la parole de Dieu. Il s'agit de croire à tout ce que dit la Bible. Et peut-être vous avez des doutes, peut-être vous ne croyez pas. Comme beaucoup, Thomas, ça a été le douteur, lui, le modèle du douteur, Thomas l'apôtre qui n'a pas voulu croire. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne croit pas, quand on a des doutes? Eh bien, si vraiment nous avons des doutes, et si nous sommes sincères dans nos doutes, allons au Seigneur et disons-lui nos doutes. Il nous accueille avec nos doutes aussi. Et croyons qu'il nous donne la foi quand nous avons des doutes. Quand nous lui confessons notre manque de foi, c'est la première chose à faire quand nous avons des doutes. Aller à lui, lui dire nos doutes. Parce qu'en faisant ainsi, il va augmenter notre foi. Il va augmenter notre foi. Et qu'a fait Jésus avec ses apôtres quand ils n'ont pas cru? Il n'a pas fait, bon, ils ne croient pas, donc ils ne verront pas. Non, il s'est montré à eux. Il s'est montré à eux. Et combien Jésus peut se montrer à nous? Par le témoignage d'un frère, d'une sœur, par n'importe quel moyen que lui connaît. Donc si nous avons des doutes, ne restons pas avec nos doutes, mais apportons-les au Seigneur. Il les prend aussi, les doutes. Et il nous augmentera la foi. Et certainement que le reproche de Jésus à ses apôtres a dû réveiller leur foi. Parce que là, ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Et là, ils sont devenus des témoins. Ils l'ont vu. Ils sont devenus des témoins de Jésus ressuscité. Ils l'ont vu. Alors peut-être quand vous témoignez à quelqu'un, quand vous voulez annoncer l'évangile à quelqu'un, vous avez été mal reçu. Peut-être que vous voyez que ça leur passe au-dessus de la tête, ils n'écoutent pas. Eh bien, ne soyons pas découragés. S'ils n'écoutent pas, si vous ne vous écoutent pas et que vous voulez leur annoncer l'évangile, il y a une chose que vous pouvez leur annoncer, c'est votre vie, votre histoire. On l'a chanté tout à l'heure, c'est mon histoire, c'est là mon chant. C'est votre propre histoire. Et si ce sont des amis que vous connaissez, si ce sont des amis, ils écouteront votre histoire, votre témoignage. Comment vous avez rencontré le Seigneur, même sans le voir. Lorsque vous vous êtes repenti de vos péchés, que vous avez placé votre confiance en lui pour être pardonné et sauvé de vos péchés. C'est votre histoire, et ça, ils vous écouteront. C'est votre témoignage. S'ils n'écoutent pas les textes bibliques, ils peuvent écouter votre témoignage de conversion. Qui vous est propre, c'est le vôtre. Alors oui, la foi doit précéder le témoignage. Quand on croit, eh bien, on peut vivre le salut en Jésus-Christ. On peut vivre le pardon. Et ça, c'est notre témoignage. Et lorsque nous avons vécu le pardon, que nous avons placé notre confiance en Jésus pour être pardonnés de nos péchés, eh bien là, nous pouvons aller. Nous pouvons être des missionnaires. Mon deuxième point, le témoignage précède la mission. Le témoignage précède la mission. Après que Jésus ait reproché aux apôtres leur incrédulité, il ne leur a pas dit « c'est fini, il va choisir d'autres personnes ». Non, il les a envoyés. Il leur a dit d'aller et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création pour que le monde croie en lui. Prêcher la bonne nouvelle. Le verbe « prêcher » évoque l'idée de publier, de proclamer ouvertement quelque chose qui s'est réellement passé. En l'occurrence ici, la résurrection. Et cette fois, les apôtres, ils étaient prêts à le suivre. Ils étaient prêts à témoigner. Là, ils étaient prêts. Ils l'ont vu. Et pour nous qui sommes venus après eux, il s'agit de les croire, de croire à leur témoignage qui nous est consigné dans la parole. Ils étaient prêts à suivre le Seigneur pour la mission. Et avant la mission, il faut d'abord croire. La foi va nous amener à témoigner. Et lorsque nous sommes prêts à témoigner, nous pouvons aller. Nous pouvons aller en mission. Alors, la prédication aboutira à deux résultats. Clairement, il n'y en a pas trois. Quand quelqu'un a entendu l'évangile, certains auditeurs croiront, seront baptisés et seront sauvés, nous dit le texte. Je vais revenir sur les autres. Alors, certains s'appuient sur le verset 16. Donc, ceux qui croiront, qui seront baptisés, qui seront sauvés. Certains s'appuient sur le verset 16 pour faire du baptême d'eau une condition au salut. Non, le baptême ne sauve pas, soyons clairs. On se rappelle des deux brigands sur la croix, en même temps que Jésus, ils ont été crucifiés l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Il y en a un qui a placé sa confiance en Jésus, il n'a pas eu le temps d'être baptisé. Et Jésus lui a dit, à cause de sa confession orale, Jésus lui a dit, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Donc le baptême ne sauve pas. Qu'est-ce que c'est le baptême ? Quelques mots sur le baptême, parce que là il en est question. Le baptême, c'est l'expression visible de ce qui s'est passé dans le cœur et qu'on ne voit pas. Le baptême, c'est l'expression visible de la foi personnelle, et on peut dire que c'est le premier pas d'obéissance au croyant. C'est le premier pas d'obéissance du croyant, le baptême. Avant de vouloir faire des choses pour le Seigneur, on peut être tout feu, tout flamme pour le Seigneur. La première chose, lorsque tu as cru, si tu n'es pas baptisé, c'est de te faire baptiser. N'attends pas d'être parfaite pour le faire. Le baptême n'est pas la condition du salut. Le baptême, c'est la proclamation extérieure devant témoin, en l'occurrence devant l'Église, du salut déjà obtenu, que tu as déjà accepté Jésus dans ton cœur. Et là, il est question de témoignage. C'est là que le futur baptisé est invité à témoigner devant l'Église de ce que le Seigneur a fait dans son cœur, de ce que le Seigneur l'a sauvé. C'est un témoignage. Et là, eh bien, là on est prêt pour aller. La foi et le témoignage précèdent la mission. Alors les autres, ceux qui ne croiront pas, eh bien ils seront condamnés. Il n'y a pas d'autre alternative. D'autres ne croiront pas et seront condamnés. Et le verbe condamner, ça évoque l'idée de rendre la méchanceté de quelqu'un encore plus évidente. Le mot condamner évoque cette idée de quelqu'un qui ne veut pas se repentir, qui ne veut pas croire en Jésus. Ça évoque l'idée de rendre sa méchanceté encore plus évidente. Il n'y a pas d'excuse à refuser de croire en Jésus. Alors, ceux qui croiront, eh bien, le texte nous dit que certains miracles accompagneront ceux qui croiront à l'Évangile. Certains miracles que je vais relister. Et la question se pose à nous aujourd'hui. Ces miracles, donc ces signes, existent-ils encore aujourd'hui? C'est ces signes dont il est question. Alors, ces signes qui sont listés ici, je vais y revenir. En tout cas, pour ma part, je fais partie de ceux qui croient que ces signes furent donnés principalement à la génération des apôtres, avant que la Bible ne soit finie d'être écrite. Ces signes ont été donnés pour certifier le témoignage des apôtres, pour certifier que l'Évangile vient de Dieu. Alors, je vais détailler, je vais exprimer mieux cela. Je vais d'abord relister ces signes. Quels signes s'agit-il? Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Eh bien, ils chasseront des démons. Acte 8, verset 7. Attention, je n'ai pas dit que ces signes ne peuvent plus se reproduire aujourd'hui. Ils se sont produits, et il fallait qu'ils se produisent du temps des apôtres. Donc, ils chasseront des démons. Deuxièmement, ils parleront de nouvelles langues. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, le jour où l'Esprit-Saint a été répandu sur l'Église, sur les croyants. C'est en Actes chapitre 2, versets 4 à 11. Chasser les démons, c'est en Actes 8, verset 7. Ils maîtriseront les serpents. On peut voir en Actes 28, verset 5, Paul, une vipère s'était attachée à sa main, et une vipère était sortie des braises. Une vipère s'était attachée à sa main et il avait chassé cette vipère. Ils boiront un breuvage mortel sans succomber. Ils imposeront les mains aux malades en vue de leur guérison. On a un récit dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 7, où Pierre a guéri un boiteux devant le temple. Dans le livre des Actes, donc. Quel était le but de ces miracles? Le but de ces miracles, on trouve la réponse dans le livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 3 et 4, que je lis. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Voilà pourquoi ces signes. Ces signes qui ont été donnés aux premiers disciples. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit. Pour que les gens croient. Donc les apôtres ont vu, ils ont prêché, les autres ont cru. Il y a eu des miracles qui ont accompagné ceux qui ont cru pour appuyer le témoignage des apôtres. Et eux-mêmes ensuite ont témoigné. Alors ces signes sont-ils encore nécessaires aujourd'hui? Non. Ils ne sont pas nécessaires. Pourquoi? Parce que nous avons la Bible aujourd'hui. La Bible, elle est complète. Ce qui n'était pas le cas des premiers disciples. Le livre des Actes n'avait pas encore été écrit. Donc il fallait des signes pour appuyer le témoignage des apôtres. Aujourd'hui, la Bible, elle est complète. Elle est finie. Elle est achevée. Toute la Bible est inspirée de Dieu. Alors, si les hommes ne sont pas convaincus par l'Écriture, par les Écritures, ils ne seront pas non plus par autre chose, pas non plus par des miracles. Marie-Madeleine a vu un ange, ce n'est pas pour ça qu'elle a parlé de Jésus. Donc, ces signes ne sont plus nécessaires. Toutefois, et c'est là que je vais nuancer, toutefois, est-ce qu'ils ne peuvent plus se produire aujourd'hui? Je crois que Dieu peut choisir de guérir miraculeusement quelqu'un de souffrant. Encore aujourd'hui, comme il peut choisir de ne pas la guérir, il est souverain. Il n'y a pas d'automatisme, ce ne sont pas des mécanismes. Il ne s'agit pas non plus d'un manque de foi, Si quelqu'un n'est pas guéri, quelqu'un pour qui nous avons prié, ce n'est pas forcément un manque de foi. C'est Dieu qui est souverain. Il choisit de guérir ou de ne pas guérir. Il peut guérir quelqu'un miraculeusement. S'il ne le fait pas, qu'il soit béni. Alors oui, Dieu peut aussi permettre que quelqu'un souffre. Mais il y a toujours une raison à la souffrance. Parce qu'il veut nous apprendre quelque chose. Ces signes aussi faits au nom de Jésus montrent une certaine puissance pour guérir, oui, mais pas seulement. Une puissance et une autorité pour chasser l'ennemi, pour chasser les démons, pour donner une puissance à ceux qui ont cru à la parole de Dieu, mais qui n'ont pas vu. Alors, une question se pose. Pourquoi Dieu aurait-il donné les moyens de résister au mal, au diable et à ses démons, uniquement aux croyants de l'époque des apôtres? Et pourquoi pas aujourd'hui? Je crois qu'il peut le donner encore aujourd'hui. Et il le donne. Jésus a montré qu'il a été plus fort que le diable. Sa résurrection montre qu'il a été plus fort que le diable, qui avait douté de lui, qu'il était le Fils de Dieu. Il a été plus fort que la mort, puisqu'il est ressuscité. Et il a été plus fort que notre péché. Donc pourquoi Dieu aurait-il donné les moyens de résister au mal uniquement aux croyants de l'époque des premiers apôtres? Il prend encore soin de nous, aujourd'hui. Et il met à notre disposition, je le crois, la même autorité au nom de Jésus pour chasser les démons. Nous n'avons pas à les craindre, nous n'avons pas à craindre le diable. Il est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Alors, apprenons à nous servir de l'autorité qu'il nous a déjà donnée pour résister à l'ennemi, pour surmonter les obstacles. Comment résister à l'ennemi? Eh bien, cette autorité, elle se trouve dans la parole de Dieu. Jésus s'en est servi pour chasser le diable. Apprenons à nous en servir, à la proclamer. Et pour cela, bien sûr, eh bien, plus nous la lirons quotidiennement, mieux nous la connaîtrons. Et mieux nous pourrons la citer quand le diable veut nous tenter. Il est écrit. En disant, il est écrit. Alors, Jésus n'a envoyé ses disciples qu'après qu'ils l'aient vu et qu'ils aient cru en lui. La foi d'hier devait s'accompagner de voir Jésus, puis de voir des miracles de la part de ceux qui ont cru. Aujourd'hui, il y a un témoignage, c'est le témoignage de la parole. C'est le témoignage de la parole qui remplace le témoignage visuel. Les apôtres sont morts. Si nous croyons que cette parole, c'est la parole de Dieu, elle est puissante. Non seulement pour chasser le diable, mais pour changer des vies. C'est la foi donc en cette parole de Dieu qui nous sauve et qui nous ouvre la bouche pour annoncer l'évangile pour que les autres croient. Voici ce que disait l'apôtre Paul en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Alors, croire sur parole ceux qui ont vu Jésus ressuscité, fait de nous ces témoins. Nous sommes les témoins de Jésus. Le témoignage des apôtres est consigné dans la parole de Dieu. Si nous croyons au témoignage de la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, eh bien, nous pouvons témoigner. Alors, Jésus s'est montré pendant 40 jours. Jésus ressuscité s'est montré pendant 40 jours à ses disciples, et puis il a été enlevé au ciel. Et il s'est assis à la droite de Dieu. À la droite de Dieu, c'est la place d'honneur et d'autorité suprême. Alors, quant à les disciples, ils ont obéi. Ils ont fait ce que Jésus leur a confié. Ils ont obéi à ses commandements. Ils sont allés et prêcher. Ils sont allés par tout le monde. Et ils sont allés prêcher l'évangile pour gagner des âmes à Christ. Et le texte nous dit que le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur était avec eux, il est ressuscité, comme il est avec nous aujourd'hui. Le Seigneur les accompagnait de sa puissance. Les signes qui avaient été promis se sont accomplis pour authentifier la parole prêchée. Et aujourd'hui, Dieu n'a pas changé, il est toujours avec nous, selon sa promesse. Il est toujours avec nous lorsque nous annonçons l'évangile. Parce que nous avons cru en lui, nous sommes prêts à témoigner et à aller annoncer l'évangile. On termine l'évangile de Marc. Alors, le travail commencé par Jean-Baptiste, vous vous rappelez, au tout début du ministère de Jésus, le travail commencé par Jean-Baptiste, poursuivi par Jésus lui-même, il s'est poursuivi ensuite par les apôtres. Et aujourd'hui, il continue, mais il continue par qui ? Par nous, l'Église. Et nous, l'Église, nous sommes la preuve même de la résurrection de Jésus, plus de 2000 ans après. Si quelqu'un vous dit, donne-moi une preuve de la résurrection, oui, je crois. Viens à l'Église, viens et vois. Nous sommes la preuve que Jésus est ressuscité, puisque nous sommes là. La mission de Jésus, elle est accomplie. Sur la croix, il a dit, tout est accompli. Mais ce n'est pas le cas de notre mission à nous, Église. Notre mission à nous n'est pas achevée. Le Sauveur avait et a toujours en vue l'évangélisation du monde, aller par toute la création. Cette mission ne s'achèvera qu'avec son retour, lorsqu'il reviendra, pour nous prendre avec lui. Puisque c'est notre mission, que faisons-nous dans ce but-là? Oui, l'Église a le devoir de présenter l'Évangile à tout être humain. Et ô combien, chacun qu'on peut... qu'on connaît ou pas, ô combien chacun a besoin du Seigneur dans ce monde qui nous va de plus en plus mal. Et lorsque nous le faisons par obéissance, dans la foi aussi, lorsque nous allons, que nous prêchons l'Évangile, eh bien nous ne sommes pas seuls. Lorsque nous obéissons au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous lui obéissons, il est avec nous et il travaille avec nous, verset 20. Le Seigneur, comme il travaillait avec eux, le Seigneur travaille avec eux. Il travaille encore avec tous ceux qui veulent lui obéir. Nous ne sommes pas seuls. Alors, on n'est peut-être pas tous appelés, on n'est pas tous appelés à être missionnaires au bout du monde, mais nous sommes tous appelés dans l'Église. Nous sommes tous appelés à quoi faire ? À aller et à le suivre, à lui obéir, déjà dans les petites choses, déjà là où il nous a placés. Nous pouvons témoigner par nos paroles, bien sûr, mais aussi par notre vie, en ne nous joignant pas au péché, au mal que peuvent faire les autres. Si tu crois, tu peux témoigner. Et si tu témoignes, tu peux aller. La foi et le témoignage précèdent la mission. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu ne t'es pas lassé avec tes apôtres, Seigneur, qui avaient vécu 3 ans avec toi, que tu as formés, qui n'avaient pas encore compris, Seigneur, cette parole que tu ressusciterais. Mais Seigneur, tu leur as fait des reproches et pour autant tu les as utilisés, puisque c'est par leur témoignage, eux qui t'ont vu ressusciter, c'est par leur témoignage qui a été consigné dans ta parole que nous pouvons croire à notre tour, bien des années après. Seigneur, voilà, que vraiment ta parole soit l'objet de notre foi, du premier verset de Genèse jusqu'au dernier verset d'Apocalypse. Et Seigneur, qu'elle soit notre moteur pour aller, pour t'obéir, Seigneur, et pour faire l'expérience que tu es avec nous, Seigneur. Lorsque nous allons, même si nous connaissons pas tout, nous voyons pas tout, tu connais notre désir de tout vouloir tout contrôler pour aller avec assurance, mais non, Seigneur, c'est toi qui es avec nous et ça doit nous suffire. Lorsque nous allons, lorsque nous t'obéissons, tu es là, tu travailles avec nous. Alors je prie, Seigneur, que tu donnes ce zèle, cette assurance à chacun d'entre nous, là où tu nous as placés. Et Seigneur, que je te remets ceux qui sont peut-être découragés, qui n'ont plus envie de témoigner, parce qu'ils ont été mal reçus. Seigneur, encourage-les tout spécialement pour qu'ils te voient à l'œuvre, Seigneur. Je pense bien sûr à nos frères et sœurs persécutés, Seigneur, ceux que l'ennemi veut bâillonner. Seigneur, sois avec eux, montre-leur que tu travailles avec eux, que tu es avec eux, et qu'ils ne se découragent pas. Et quant à nous, Seigneur, nous avons encore la liberté, c'est vrai, de vivre notre foi. Seigneur, et tu nous dis que la nuit vient où personne ne peut travailler. Seigneur, vraiment, aide-nous à racheter le temps et à avoir les bonnes priorités dans notre vie, Seigneur. Oui, Seigneur, garde-nous de nous endormir. C'est tellement simple, mais Seigneur, garde-nous éveillés ou réveille-nous si on en a besoin. Et Seigneur, merci parce que Seigneur, tu n'en as pas fini avec nous. Et même si parfois tu peux nous faire des reproches, tu nous prends par la main pour nous amener plus loin, pour nous relever, Seigneur. Ce que tu as fait avec les apôtres. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce que tu es vivant au siècle des siècles.